VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. En RDC, la coalition au pouvoir conditionne sa participation aux négociations sur les modalités et le calendrier d'application de l'accord de co-gestion du pays à la reconduction du mandat de la médiation de la CENCO, la conférence épiscopale catholique du Congo. Avant cette étape capitale sur le plan formel au niveau des prérogatives du président de la République, l'AMP, la majorité présidentielle, ne saura poser un acte quelconque, a précisé aujourd'hui Aubin Minaku, secrétaire général de l'AMP, indiquant que c'est le moment de respecter les prérogatives du président de la République, la Constitution et les institutions de la RDC. Les évêques avaient invité ce mardi la majorité et l'opposition à déposer demain mercredi des propositions écrites sur les modalités de désignation du Premier ministre, des membres du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, la taille du gouvernement, le partage des rôles pendant la transition jusqu'à l'élection du successeur de M. Kabila. C'est ce qu'avait déclaré l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de l'épiscopat congolais. Face aux exigences des uns et des autres, plusieurs observateurs estiment que l'accord du 31 décembre, négocié in extremis entre la majeure partie de l'opposition et la mouvance présidentielle, est en danger. D'où l'appel du consultant diplomatique Henri Désiré Nzouzi à la majorité présidentielle, l'exhortant à assumer ses responsabilités pour un dénouement de la crise.
Quand on lit attentivement cet accord, il est plutôt favorable à Joseph Kabila puisqu'il garde les 26 provinces, la CENCO n'est pas restructurée de manière profonde comme cela avait été demandé, la présidence n'est pas protocolaire, que du contraire, elle est plutôt effective. Il y a quand même, on peut le dire, hein, sur le papier, des motifs de satisfaction pour Joseph Kabila. Mais là, vraiment, on ne comprend pas. J'ose espérer, pour ma part, qu'il ne s'agit que d'un ballon d'essai destiné à tester la réaction peut-être du rassemblement. En tout cas, pour le moment, le rassemblement ne réagit pas de manière, je dirais, officielle et c'est plutôt bon signe pour bien montrer qu'elle est consciente de la gravité de la situation et que c'est un moment important pour les Congolais. Il faut simplement espérer que le camp présidentiel se ressaisira.
Henri Désiré Nzouzi à Bruxelles, en Belgique. Au Tchad, rejet de l'appel du gouvernement en faveur de la reprise des cours le 3 janvier 2017 dans les établissements d'enseignement. Aucune école publique n'a rouvert ses portes ce mardi. La réaction du secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Gounoung Vaïma Ganfari.
Si nous respectons notre constitution, il n'y a que ceux qui ont lancé la grève là qui peuvent appeler les gens à reprendre le travail. On ne peut pas faire des ping-pong comme ça. Un ministre dit « reprenez les cours ». Un autre ministre dit « Non, c'est pas bon ». On dirait que les gens ne gèrent pas comme ils gèrent un État. Faut pas qu'ils gèrent avec passion. Ce n'est pas tromper tout le monde tous les jours qu'ils peuvent réussir. Si les étudiants vont à l'école et qu'ils n'ont pas les anciens, est-ce qu'ils savent ce qui peut arriver? Sortir comme ça pour se faire une place, pour dire « j'ai appelé les gens à travailler, j'ai appelé les anciens à faire ceci ». Non, c'est un couteau à double tranchant. Il faut que les responsables réfléchissent à ce qu'ils disent. On est dans la démocratie. Démocratie, ça veut dire discuter. Pourquoi le gouvernement ne veut pas discuter valablement avec nous? Pourquoi ils ne veulent pas prendre en considération nos propositions? On a déjà dépassé le sens de pensée unique où il n'y a que nous qui prenons la décision. Non, il faut que les gens fassent attention. Pour le moment, nous, là, on n'a pas appelé les gens à la reprise. Nous restons là.
Gounoung Vaïma Ganfari, secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, propos recueillis par notre correspondant Njamena André Kodmajingar. Guinée équatoriale, c'est demain mercredi que le tribunal correctionnel de Paris se prononcera sur la requête des avocats de Théodorine Obiang, vice-président et fils du président équato-guinéen, d'un report de son procès pour blanchiment d'abus des biens sociaux et détournement de fonds publics, notamment. Au regard de cette affaire, Georges Mpaga, acteur de la société civile au Gabon, dénonce l'opacité et le manque de démocratie en Afrique centrale.
Cette opacité résulte d'abord du fait qu'il y a un déficit démocratique en Afrique centrale. La plupart des chefs d'État sont au pouvoir en moyenne depuis 30 ans. Il n'y a pas d'alternance démocratique dans ce pays, à l'exception du Gabon et de la RDC. Les autres pays, vraiment les sociétés civiles, sont extrêmement faibles. Donc c'est le manque de démocratie qui est à l'origine de ce qu'on appelle le syndrome hollandais, avec d'immenses ressources les 11 pays d'Afrique centrale ont des ressources immenses, mais les populations sont immensément aussi appauvries. Et paradoxalement aussi, les dirigeants sont extrêmement riches. Finalement, l'émergence d'une véritable démocratie est la seule condition pour vraiment avancer dans la lutte contre la corruption.
Georges Mpaga de la société civile gabonaise.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté hier une loi permettant l'élection de 15 parlementaires pour la diaspora, ce qui porte à 165 le nombre total de députés élus. D'après le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, la diaspora sénégalaise forte de plus d'un million et demi de membres contribue pour plus de 900 milliards de francs CFA, soit près de 1,381 milliard d'euros par an, à l'économie nationale, soit près du tiers du budget de l'État sénégalais pour 2017. Au Mozambique, l'opposition crée la surprise en prolongeant de deux mois un cessez-le-feu unilatéral dans le but de favoriser les pourparlers de paix en panne depuis des mois. L'ancienne rébellion de la RENAMO, qui avait repris les armes en 2013, avait déjà annoncé une trêve le mois dernier, l'appelant un geste de bonne volonté. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Le chef de la RENAMO, Alfonso Dlakama, a reconnu qu'il y a eu quelques petits incidents, mais que la trêve que son mouvement vient de prolonger s'est globalement bien passée. Avec cette prolongation, les armes devraient se taire jusqu'au 4 mars. Pendant cette période, la RENAMO dit espérer un environnement propice à l'accélération des pourparlers avec le gouvernement à Maputo. Entamées fin mai 2016, les négociations visent à mettre fin au conflit larvé que oppose l'armée à la RENAMO. Le gouvernement n'a pas immédiatement réagi à l'annonce surprise de la RENAMO, mais hier, le président Philippe Nyusi avait estimé que la responsabilité d'un éventuel prolongement de la trêve incombait à la RENAMO. Le Mozambique, déchiré de 1976 à 1992 par une sanglante guerre civile qui a fait 1 million de morts, vit une nouvelle période d'instabilité depuis 2013. Le chef de la branche armée de la RENAMO reste retranché dans les montagnes et réclame un partage du pouvoir après les législatives de 2014, remportées par le Frelimo, le parti au pouvoir, mais dont elle conteste les résultats. Mi-décembre, les médiateurs avaient quitté le pays sur un constat d'échec.
Afrique australe toujours, le Nigeria demande des explications à l'Afrique du Sud à la suite de la mort jeudi dernier d'un de ses ressortissants interpellés par la police sud-africaine. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Des photos et vidéos enregistrées par plusieurs témoins montrent que le Nigérian Victor Tochukwu Nadi a été étranglé en pleine journée par des policiers du Cap alors qu'il était à terre et menotté. Ce comportement barbare est non seulement inacceptable, mais nous appelons également le Nigeria et l'Afrique du Sud à porter une attention diplomatique à ce dossier, a déclaré Abike Dabiri Erewa, conseillère spéciale à la présidence nigériane pour les questions de politique étrangère et la diaspora. Selon Mme Dabiri Erewa, 20 Nigérians ont été tués en 2016 en Afrique du Sud, hors de tout système judiciaire. La police du Cap affirme de son côté que Nadi avait résisté à son arrestation pour trafic présumé de drogue et qu'il serait mort après avoir tenté d'avaler une dose d'héroïne qu'il s'apprêtait à vendre, une version démentie par le porte-parole de l'Union nigériane en Afrique du Sud.
Et pour terminer, la Corée du Sud estime que le président américain élu Donald Trump a adressé un avertissement clair à la Corée du Nord concernant son programme nucléaire. Nathalie Barge.
La Corée du Nord vient d'affirmer qu'elle en était aux dernières étapes du développement d'une arme nucléaire capable d'atteindre le territoire américain. Mais cela n'arrivera pas, a déclaré Donald Trump hier dans un tweet. Dans son discours du Nouvel An, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que son pays en était aux dernières étapes avant le lancement test d'un missile balistique intercontinental, ajoutant que Pyongyang avait renforcé de manière significative son arsenal nucléaire cette année. Jusqu'ici, Donald Trump n'avait jamais fait clairement connaître sa position sur le sujet. Le message du président élu Trump peut être considéré comme un avertissement clair, a déclaré le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Jung-hyuk. Pour lui, la politique américaine envers la Corée du Nord va rester en grande partie inchangée. Leur position sur la nécessité de sanctions contre la Corée du Nord demeure inébranlable, a-t-il estimé.
Merci de votre attention. Monsieur Juna.